Psaume 3. Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui, de toutes parts, se sont mis contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Le contexte de ce psaume est un petit peu particulier et il trouve tout son éclat, toute sa beauté quand on prend garde à la petite phrase qu'il introduit. L'auteur en est David, le roi David en l'occurrence, et le roi David qui est déchu, le roi David qui est en fuite, le roi David qui vient de quitter Jérusalem, qui vient de quitter son palais, qui vient de quitter son trône et qui est en train de fuir, non pas devant Saül, mais qui est en train de fuir devant son fils, Absalom. La chair de sa chair, celui qui l'a aimé, celui qui l'a réhabilité, celui qui, quelques années auparavant, a tué un de ses frères aînés, Amnon, après que celui-ci ait commis cet acte ignoble de violer sa propre sœur Tamar. Et voyant devant la léthargie de David, Absalom va tuer Amnon. Et ensuite, pour être protégé, Absalom va être envoyé en exil, va partir. Et puis Joab, le chef de l'armée de David, va finalement négocier afin que Absalom revienne en grâce. Et petit à petit, Absalom va revenir en grâce, mais tout au long de ce temps, il va fomenter un complot contre son père, en arrêtant les gens qui venaient pour recevoir un jugement et de la part du roi, et il leur disait, « Oh, tu sais, hein, si jamais c'était moi qui jugeais, ça serait bien différent. » Et puis, il va venir un jour où finalement, eh bien, Absalom va faire un coup d'État et va finalement prendre la place de David. Il va aller retrouver les concubines de son père sur le toit, et David va être obligé de fuir afin d'éviter une guerre civile à son pays. Et c'est dans ce contexte-là que ce psaume a été écrit. C'est dans ce contexte-là que le roi David, l'homme de Dieu, hein, qui est meurtri, qui est blessé, va finalement écrire ce psaume numéro 3. Moi, la première chose que je retiens en introduction, c'est que lorsque je lis ma Bible, ça me fait du bien parce que je vois que les hommes de Dieu, tout comme moi, ne sont pas épargnés. Ne sont pas épargnés par les coups durs, ne sont pas épargnés par les difficultés, ne sont pas épargnés par les tentations, ne sont pas épargnés par les coups du diable ou tout simplement par les coups de la vie. Ici, David vit l'une des épreuves les plus compliquées qui soit. Il est pourchassé. Son propre fils veut sa mort. Sa propre famille veut sa mort. C'est un petit peu comme si votre mère, pour les plus jeunes, voulait votre mort. C'est un petit peu comme si vos enfants, votre enfant, voulait vous tuer. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose d'extraordinairement difficile à vivre. Et il faut bien se dire une chose, c'est que notre obéissance ne nous protégera pas forcément de tous les coups. Ce n'est pas parce que nous vivons dans l'intégrité, certes David avait péché vis-à-vis de Bathsheba, certes la vie familiale de David a toujours été l'un de ses problèmes majeurs et a été certainement le point noir dans la royauté de David. Mais la réhabilitation avait été là. La réhabilitation avait été là. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut bien le graver dans notre cœur. Il ne faut pas avoir une foi naïve. Ce n'est pas parce que je marche fidèlement avec mon Dieu, ce n'est pas parce que je fais ma prière tous les matins, que je la fais tous les soirs, que je lis ma Bible régulièrement, que je suis présent à toutes les réunions, que ma vie chrétienne sera une vie qui sera tissé de pétales de rose, où tout roulera, où je réussirai parfaitement toujours dans mes études sans rien réviser, ça c'est pour les plus jeunes, hein, où je trouverai le plus beau des maris, la plus belle des femmes, hein, du premier coup, nickel, hein, où je réussirai forcément dans ma vie professionnelle, où je serai heureux, où je vivrai finalement le monde des bisounours. Non, c'est pas ce que la Bible nous déclare. Mais en revanche, la fin de l'histoire de David nous montre que parce que David est resté intègre, parce que David a continué à obéir, eh bien David a été rétabli. Et mon frère, ma sœur, peut-être toi qui vis dans cette intégrité, dans cet état d'esprit, et qui pourtant prend des coups, qui pourtant souffre, qui pourtant finalement est quelque peu laissé de côté, et quelque peu, nous allons le voir, critiqué même au sein de sa propre famille, sache une chose, c'est qu'on gagne toujours à rester obéissant. Et qu'au bout du bout, eh bien, le juste est relevé, le juste est rétabli, et que non seulement il est rétabli, mais la difficulté l'a enrichi, et la difficulté l'a élevé, que ce soit aux yeux de Dieu, s'il en était besoin, mais que ce soit également aux yeux des hommes. Dans ce psaume, on voit quatre parties qui sont bien distinctes. La première partie se situe du verset 2 au verset 3, c'est ce que j'ai intitulé le découragement de l'homme de Dieu. Ce découragement porte sur au moins deux points. Premier point, c'est le nombre de ses adversaires. Et pour nous, l'adversité, on la connaît également. Pour nous, ce n'est pas peut-être notre famille qui cherche à nous tuer, mais c'est tous les soucis qui viennent autour de nous. Jeudi dernier, à la réunion de prière, je partageais sur cette notion de soucis qui viennent parfois étrangler nos vies. C'est la racine du mot souci. C'est le terme, c'est un dérivé du mot étranglement. Et trop de soucis nous étranglent. Et d'un côté, on a les soucis financiers qui sont là. De l'autre côté, on a les soucis familiaux qui sont là. De l'autre côté, on a les soucis avec notre mari. On a les soucis avec notre patron. Et finalement, on se retrouve totalement assiégé par les soucis de droite, de gauche. Et on pourrait dire, comme David, qu'ils sont nombreux, mes soucis. Qu'ils sont nombreux, mes soucis. Comment est-ce que je vais faire pour boucler la fin du mois? Comment est-ce que je vais me débrouiller avec le petit dernier qui m'en fait voir des vertes et des pas mûres? Comment est-ce que je vais me débrouiller avec mon mari, ma femme, qui en ce moment vit des choses terribles? Comment est-ce que je vais me débrouiller par rapport à la maladie? Et on est étranglé, un petit peu comme l'apôtre Paul qui disait qu'il était assiégé par les soucis que lui donnaient les églises. Assiégé. Et là, David, il est dans cette optique-là de dire, ils sont nombreux mes soucis. Ils sont tellement nombreux qu'ils ne les voient pas. Un petit peu comme le serviteur de l'homme de Dieu, d'Élisée, qui se trouvait à Dothan, alors que la ville était assiégée par les Syriens, et qui donne un coup de coude à Élisée et qui lui dit « Et comment on va faire pour s'en sortir ? Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux, les Syriens. Il n'y a plus rien à manger dans la ville, c'est fichu. » Et puis là, le prophète de dire « Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Et Élisée de prier, afin que le serviteur puisse voir la cavalerie, les chars qui étaient sur les montagnes. Et mes frères et sœurs, je prie de tout mon cœur afin que nous puissions voir la cavalerie des anges qui est au-dessus de nous, afin que nous puissions voir la puissance de notre Dieu, afin que nous puissions réaliser tout à nouveau que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est au-dessus de nos difficultés, est au-dessus de nos problèmes, est au-dessus de nos doutes. Oui, ils sont nombreux nos soucis, oui, ils sont nombreux nos tracas. Mais ils ne sont pas plus forts que le Seigneur Jésus. Ils ne sont pas plus forts. Et les Syriens vont être frappés d'aveuglement et ils vont être conduits dans la ville. Ce serait une belle prière à faire, bien imagée, de dire « Seigneur, frappe d'aveuglement mes soucis. Hein » C'est une image, bien sûr. « Frappe d'aveuglement mes soucis, afin qu'ils s'écartent de ma vie. » Afin qu'ils s'écartent de ma vie. Deuxième aspect de l'adversité que rencontre David, c'est l'attaque de sa foi et de son intégrité en tant qu'homme de Dieu. Nombreux sont ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Point de salut. C'est terrible ça d'entendre ces paroles. Point de salut auprès de Dieu. Je reviens à ce que je disais en intro. Le juste n'est pas forcément récompensé pour son obéissance. Et on peut se dire dans notre cœur, et le diable peut déposer dans notre cœur, ce venin, à quoi ça sert d'être intègre et d'être pieux? À quoi ça sert de s'approcher de Dieu? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de venir à l'église? À quoi ça sert de lire sa Bible? Regarde ta vie. Certes, tu as meilleur caractère qu'avant. Certes, il y a des choses qui sont arrangées, mais il n'empêche que il y a toujours des montagnes devant toi. À quoi ça sert? Attaquer dans son intégrité, dans sa foi. À quoi ça sert? N'avez-vous jamais entendu cette voix? N'avez-vous jamais eu cette pensée à vous qui vous traverse l'esprit? À quoi ça sert? Je suis juste et je fais tout comme il le faut, et pourtant. J'imagine très bien David, dont le passé lui revient en pleine figure. Si je n'avais pas connu Bathsheba, si je n'avais pas tué Uri, si j'avais repris Amnon, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Et ça devait être la torture dans le cœur de David. À quoi ça sert? Tu n'es pas réellement pardonné. Regarde, si tu avais réellement été pardonné, il ne t'arriverait pas cette sale histoire avec Absalom. À quoi ça sert? Cette pensée est forte sur mon cœur. Quelqu'un est venu ce matin avec un « à quoi ça sert » dans son cœur. À quoi ça sert de marcher avec Dieu? Frère, ma sœur, dites de tout mon cœur, l'homme de Dieu n'en reste pas là. Et David va aller voir plus loin, va surmonter tout cela, va finalement réagir et va rebondir. Ton cœur est chargé de soucis, ton cœur est chargé de doutes, ton cœur est chargé de problèmes. Parle-en au Seigneur Jésus. Parle-en au Seigneur Jésus. Il est celui qui décharge. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. On peut être chrétien depuis 20 ans, 25 ans, 5 mois, 5 jours, peu importe. La vie nous charge. La vie nous charge. Et il est nécessaire d'apprendre à se décharger auprès, eh bien, de notre Dieu. Ce que j'aime en voyant cela, c'est que David, il ne va pas rester dans cet état. Mais on va voir la réaction de l'homme de Dieu. Au verset 4, il va dire, comme un sursaut. J'aime bien le terme de pause qu'il y a. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos versions. Mais entre le verset 4 et entre le verset 3 et le verset 4, moi j'ai pause. Je ne sais pas combien a duré la pause. Je ne sais pas combien de temps David a pu être tourmenté. Mais tout d'un coup, il y a cette pause. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. David est toujours poursuivi par Absalom. La vie de David est toujours en danger. Les soucis sont toujours là. Il est toujours étranglé dans sa foi. Il est toujours étranglé dans sa piété. Pourtant, ça y est, la foi est en train de renaître. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le cœur de David. Première chose, il dit, tu es mon bouclier. Alors, le terme de bouclier mérite d'être médité quelque peu. Le bouclier de David, c'est-à-dire Dieu, c'est un bouclier efficace. Il n'est pas comme le bouclier de Goliath. Goliath qui était grand, plus de 3 mètres de haut, qui avait des armes hautes, fortes, qui avait été élevé dans la guerre, qui était un homme de guerre. Pourtant, son bouclier, son casque et ses armes ne vont pas empêcher le petit berger, le gamin, de lui loger une pierre dans le front. Ne nous trompons pas de bouclier. Ne vivons pas de fausses assurances. Notre bouclier est en Dieu. Notre bouclier est en Dieu. Deuxièmement, le bouclier recouvrait tout le corps. À cette époque, ce n'était pas les petits boucliers que l'on peut voir, mais c'était un bouclier qui était aussi grand que la personne. Et moi, j'aime à croire que le bouclier de la foi qui nous protège des traits enflammés de l'ennemi, il protège toute notre vie. Il ne protège pas simplement notre vie spirituelle, mais il protège également notre vie de couple. Mes frères, mes sœurs, priez ensemble. Lorsqu'un mari, lorsqu'une femme prie ensemble, eh bien, c'est comme s'ils érigent un bouclier contre les traits enflammés sur leur couple. Allez, je ne fais pas de sondage. Mais est-ce que cela vous arrive de prier ensemble? Je pousse même le bouchon un peu loin, de rendre grâce ensemble. Parfois, j'ai connu un couple, il y a une mari qui rendait grâce devant la télévision et la femme qui rendait grâce dans la salle à manger. Mais rendez grâce. Voyez-vous, lorsqu'un mari, lorsqu'une femme prie ensemble, ils érigent un bouclier dans leur couple. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tension, parce que l'amour, la passion suscite forcément des tensions. Mais ça veut dire qu'ils seront protégés et qu'ils arriveront à évoluer dans un climat spirituel sain. Prier ensemble. Je le dis aux jeunes mariés, prier ensemble. J'insiste très lourdement auprès des jeunes mariés, prier ensemble. Et ce matin, j'insiste encore plus lourdement. Érigez ce bouclier. Érigez-le dans votre vie professionnelle. Érigez-le dans votre vie scolaire, etc. Érigez ce bouclier. C'est pas facile de prier avec celui qu'on aime. C'est étrange comme réflexion. Il y a une forme de pudeur. Ah, oui, mais c'est bizarre. On n'a pas l'habitude, frère. Pourtant, c'est ô combien utile. Troisième chose, c'est que le bouclier, on se cache derrière. On n'est pas devant lui. Et vous savez qu'il y a des chrétiens qui emmènent leur bouclier, qui voudraient emmener Jésus dans les endroits où Jésus ne veut pas être. Et ils avancent, ils vont devant le bouclier, et puis ils disent au bouclier, « Essuie-moi, hein. Suis-moi. Je vais faire n'importe quoi de ma vie. Je vais aller souiller ma vie, mais tu me suis quand même et tu me protèges. » Ça vous paraît complètement ubuesque. Imaginez un soldat, hein, l'ennemi c'est Esther, et puis qui traîne son bouclier comme ça. Vous direz, mais il est complètement tabanard. Il va pas bien. Mais il n'y a aucun chrétien comme ça chez nous. C'est dans les autres églises, ça. Si, je vous assure, hein. Si, j'ai bien fait l'inspection, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Le bouclier, on est caché derrière. Je suis derrière Jésus, c'est Jésus qui marche devant moi et c'est moi qui suis Jésus. C'est pas Jésus qui me suit. C'est pas Jésus qui m'entraîne. C'est pas moi qui entraîne Jésus, mais c'est Jésus qui m'entraîne à sa suite. Faut pas se tromper de sens. Quatrième chose, c'est une arme défensive le bouclier. On est abrité derrière, et puis tout d'un coup, on voit une flèche qui se plante dedans. Ou plutôt, qui glisse dessus. À l'époque, les boucliers étaient pleins d'huile, étaient recouverts d'huile, de manière à ce que les flèches enflammées, d'où l'expression de Paul, que lançaient les ennemis, ne puissent pas mettre le feu au bouclier qui, la plupart du temps, était en bois. Et, étant donné qu'ils étaient recouverts d'huile, bien souvent, les flèches glissait dessus et ne venait pas se planter dedans. L'huile, c'est l'image de quoi ? Du Saint-Esprit. Hein ? On est caché derrière le bouclier et puis on attend que ça passe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit autour, qu'il n'y a pas de rugissement autour, qu'il n'y a pas quelques flèches qui viennent se planter dedans. Ce qui ne veut pas dire que le combat ne cesse pas. Ce qui ne veut pas dire que le combat cesse. Mais ce qui veut dire qu'on est protégé derrière notre foi, derrière les certitudes que la parole nous donne, derrière les promesses que Jésus nous a confiées, au travers d'une prophétie, au travers d'une lecture, au travers d'une prédication. On est caché derrière. Ça rugit autour. Qu'est-ce que c'est agréable lorsqu'il y a de la tempête, lorsqu'il pleut, et puis que vous êtes dans votre couette, hein, et que vous entendez le vent dehors, vous entendez la pluie qui se fracasse sur les Vélux, et là vous êtes sous votre couette. Waouh! Qu'est-ce que je suis bien. Il y a une impression de sérénité, de tranquillité. Mais c'est ce que David va expérimenter dans la troisième partie. Du verset 6 au verset 7, c'est exactement ce que David va expérimenter. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Ça claque autour de lui. Mais tout d'un coup, parce que David a réalisé que Dieu était son bouclier, ou plutôt était redevenu son bouclier par cet acte de foi, par cette confession, par cette prise de position, tout d'un coup, David, il se dit, mais attends, Dieu est mon bouclier, et ça génère dans son cœur la paix. Voyez-vous, la foi n'a pas vocation à terrasser nos ennemis. Pas toujours vocation à terrasser nos ennemis, mais elle a parfois vocation à nous faire supporter le combat. Vous savez, Pierre et Jean, les deux disciples de Jésus, parce qu'un village des Samaritains ne les avait pas accueillis, ils ont fait une drôle de proposition à Jésus. Ils ont dit, veux-tu que l'on prie afin que le feu du ciel tombe sur ce village ? Remarquez, ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et Jésus a dit non. Et quelques temps plus tard, il y a un drôle de feu qui va tomber sur le village des Samaritains. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, tout d'abord par le ministère de l'évangéliste Philippe, qui était l'un des diacres établis dans Actes 6. Et ensuite, lorsque Pierre et Jean vont descendre de Jérusalem pour aller voir ce qui se passait, et là, le Saint-Esprit va descendre sur les Samaritains. Mais ce que j'aime dans l'attitude de David, c'est cette paix. Voilà, mon fils cherche à me tuer. La chair de ma chair en veut à ma vie. Mais Seigneur, parce que tu es mon bouclier, parce que tu es ma gloire, méditez sur ce thème de gloire et rapprochez-le, pour ceux qui prennent des notes, de 2 Samuel 9. Lorsque David, le roi David, monte la montagne des Oliviers en lambeaux, en vêtements, en guenilles. Et là, David va dire, voilà, je me couche et je m'endors en paix. Ça rappelle le texte que Paul écrira aux Philippiens dans sa lettre, au chapitre 4 et au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et la suite est magnifique. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La nature de la paix que David a, c'est une paix qui est surnaturelle, qui surpasse toute intelligence, c'est une paix qui est un peu folle, quoi. C'est une paix qui vient directement de Dieu. On ne peut pas être en paix avec un fils qui en veut à notre vie. Pourtant, David, voilà, il se couche et il s'endort en paix. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Ça surpasse toute intelligence. Et je crois que là, David vit un miracle. Et je crois que mon frère, ma sœur, nous pouvons vivre ce même miracle. Nous avons tous traversé des périodes difficiles dans nos vies. Et si je vous faisais témoigner des moments de paix complètement folles que l'on a pu avoir, lorsque papa est décédé, c'est moi qui ai eu la folie parce qu'il m'avait demandé de faire son service, de prêcher lors de son enterrement. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Je peux à peine vous dire ce que j'ai raconté. Mais ce que je sais, c'est que dans mon cœur, il y avait une paix qui venait d'ailleurs. Une paix qui venait d'ailleurs. Quelque chose de surnaturel que j'ai pu revivre quelque temps plus tard. Mais voyez-vous, le miracle de Dieu ne consiste pas forcément en des guérisons de boiteux, des guérisons d'aveugles, mais consiste à la capacité que Dieu nous donne, cette capacité surnaturelle de traverser des galères, de traverser des problèmes, de traverser des combats, des adversités, avec une paix dans notre cœur. Ton cœur n'est pas dans la paix. Rapproche-toi de Dieu. Décharge-toi de tes soucis. On voit que cette paix, elle se cultive. Puisque l'apôtre Paul dit sans cesse. Et c'est logique parce que nos cœurs sont sans cesse attaqués, sont sans cesse aux prises avec des soucis, plus ou moins graves. Ça peut passer au fait qu'on n'ait plus de nouilles dans le placard. Ne priez pas pour en avoir, allez en acheter, de préférence. Aux soucis bien plus graves que la vie peut nous procurer. Nos vies sont assiégées, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est tous les jours qu'il faut désherber le jardin. Dire, Seigneur, tu vois ce problème-là, je te le remets, il est à toi. Tu vois ce petit tracas, cette petite pierre qui est dans ma chaussure, Seigneur, elle est à toi, je te l'offre. Priez sans cesse, dit Paul. En tout temps, en toutes circonstances, priez. Faites connaître à Dieu. Dieu attend qu'une seule chose. Vous ne dérangerez jamais Dieu. Jamais. Il est toujours prêt à vous écouter. Quelle patience il a. toujours prêt à vous écouter. 24 heures sur 24, la liaison est établie. Vous tomberez jamais sur le répondeur. Jamais. Il est toujours dispo, il est toujours là. Faites-lui connaître vos problèmes. Les petits comme les gros. Il est le Dieu du petit comme le Dieu du grand. Et ainsi, vos cœurs seront gardés. Il y aura cette paix, il y aura cette assurance, il y aura ce surnaturel que Dieu offre et que Dieu communique, que Dieu donne. Et ce surnaturel, il se vit par un moyen extraordinaire qui est la prière, qui est la supplication et que sont les actions de grâce. La paix, elle ne nous viendra pas. Dieu ne peut pas la déposer dans notre cœur. Dans notre cœur, j'ai employé un terme qui n'est pas forcément juste. Ce n'est pas une génération spontanée. Ça ne vient pas tout seul. Mais par quel moyen est-ce que la paix vient? C'est parce que sans cesse, on fait monter vers Dieu des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est comme cela que la paix, que Jésus dépose la paix en nous. Frères et sœurs, c'est avec beaucoup de respect que je le dis. Pas en faisant une petite prière le matin de 8h20 à 8h22 et une autre de 19h35 à 19h37 que la paix viendra dans notre cœur. Et c'est sans cesse, à chaque moment, à chaque instant de ma journée. Mon collègue de travail me casse les pieds. Seigneur, garde mon cœur. Mon pasteur est infect avec moi. Seigneur, garde mon cœur. Et bénis-le, il y en a besoin. Ma femme, bénis-la. Hein? Sans cesse. Finalement, c'est comme ça que l'on fait le ménage dans notre cœur. Et c'est comme ça que la paix s'instaure. Par une relation permanente. Et non pas un petit coucou Jésus de temps en temps. C'est bien de le faire. Mais il est nécessaire d'avoir une relation suivie. D'être sans cesse connecté. Ce qui ne veut pas dire qu'on devient des mystiques. Loin de là. Continuez à travailler, continuez à penser à ce que vous faites. Hein. Surtout, ne vous arrêtez pas de travailler pour prier tout d'un coup pendant une heure. Hein. Dites pas au patron, je me mets à genoux dans mon bureau, tu m'embêtes plus. Surtout pas ça. Mais juste un petit désherbage rapide. Seigneur, voilà, pose ta main. Et là, vous décrochez le téléphone. Voilà. Là, Seigneur, tu interviens. Et la paix de Dieu. C'est celle que David expérimente là, gardera nos cœurs et nos pensées. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose de fabuleux. Premièrement, donc, nous avons vu que l'homme de Dieu était découragé. Deuxièmement, nous avons vu le ressort de la foi qui fait voir Dieu comme étant son bouclier, comme étant sa gloire. Troisièmement, nous voyons les conséquences de cette vision nouvelle qui apporte non pas l'éradication de ses ennemis, mais qui apporte la paix dans son cœur. Et quatrièmement, il conçoit à nouveau Dieu tel qu'il est. L'épreuve et la difficulté, bien souvent, nous font transformer Dieu en mini-pouce. Ça biaise les choses. Au lieu que Dieu soit au-dessus de nos soucis deviennent au-dessus de Dieu. Au lieu que ceux qui soient autour de nous soient plus nombreux, eh bien, ce sont nos soucis qui deviennent plus nombreux que ceux qui nous entourent et qui nous protègent. Et tout d'un coup, David revoit Dieu tel qu'il est, au travers de ce cri. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Jésus redevient, non pas son moyen de salut, mais redevient son salut. Son Dieu redevient son salut. Parce que je crois que David ne vivait pas au travers de moyens de salut, mais pour lui, la foi qu'il avait placée en Dieu, dans son quotidien, c'était un état. Pour aller couper prépuce des Philistins pour avoir la fille de Saül, il fallait que la foi de David soit un état. Pour aller combattre régulièrement les Philistins, il fallait que la foi soit un état chez David. C'était une manière de vivre, c'était une manière de concevoir ce qu'il était. Et Dieu n'était pas simplement un moyen de bénédiction, mais c'était la bénédiction. C'était la bénédiction. Et tu es mon salut, lève-toi. Et là, la foi prend une autre dimension. La paix que Dieu lui a donnée, ça devient une paix qui l'entraîne vers la victoire, qui l'entraîne vers l'action. car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents de mes méchants. » Il y a cette expression que les jeunes utilisent. « Oh, tu me fatigues, je vais te casser les dents !» C'était de mon temps, ça, d'accord, c'est un peu ringard, d'accord. Je suis vieux maintenant. Mais, ouais, Dieu est plus fort que nos ennemis. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, 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 rien. On le garde bien profondément dans notre cœur. Et le verset qui m'a fait du bien, et que c'est à ce verset-là, à mon sens, que l'on voit que l'homme de Dieu est guéri de son découragement. C'est lorsque il dit « À l'Éternel est le salut, que la bénédiction soit sur ton peuple. » Ça y est, David est sorti de sa crise d'identité, entre guillemets. Auparavant, c'était l'homme qui était affecté. Là, il se repositionne en tant que roi. Il se repositionne en tant que roi. Le salut n'est pas simplement sur moi. La bénédiction n'est pas simplement sur moi. Mais la bénédiction est sur ton peuple. La bénédiction est sur ton peuple. Et je crois que c'est le signe d'une guérison authentique et véritable. C'est la conséquence d'un cheminement spirituel profond et personnel. C'est que on sort de l'épreuve, on arrête d'être étranglé par nos soucis grâce à la paix que Dieu déverse dans notre cœur. Et tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent et on se dit, tiens, ben, tu le bénis lui aussi. Tu m'as bien béni moi. Tu m'en as bien fait sortir. La bénédiction est sur ton peuple. Sur ce peuple qui est entre les mains d'un mauvais berger, Absalom. Eh bien, que la bénédiction soit sur lui. Et David se remet à passer à son peuple. Alors, en conclusion, une simple question. Dans quel stade en sommes-nous? Le premier, où on est la tête au fond du sac, complètement découragé, en train de compter nos ennemis, en train de compter ce que Dieu ne nous donne pas, en train de compter qui nous veut du mal. En sommes-nous dans le second, où tout d'un coup, on se dit, Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. En sommes-nous dans le troisième, où on vit cette paix surnaturelle en se disant, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur prendra soin de moi comme il prend soin des petits oiseaux. Prendra soin de moi comme il prendra soin des lys des vallées. Voilà. À chaque jour suffit sa peine et le bout du tunnel viendra bien un jour et je l'affronte sereinement, la difficulté, sans trop de problèmes. Voilà. J'ai cette paix dans mon cœur qui est présente. Ou alors, en sommes-nous dans la quatrième, avec cette dimension de la foi, de dire, Seigneur, tu te lèves. Tu te lèves et tu deviens non seulement un moyen de salut, mais surtout tu deviens mon salut. Ma vie est baignée, est imprégnée dans cette foi, dans cette conviction, ce qui va permettre à David de repartir au combat. Alors Absalom va être tué par Joab, nous le savons, après s'être pendu dans un sycomore à cause de sa grande chevelure dont il était si fier. David va pleurer sur Absalom. David va pleurer sur Absalom. Tel point que Joab va lui dire, écoute, il y a des hommes qui se sont battus pour toi. Maintenant, va leur dire quelques mots et reprends ta place. Et reprends ta place. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous visite, nous fasse du bien. L'intégrité, j'aime pas ce terme-là, est tout récompensé. Mais on n'est pas intègre avec Dieu pour la récompense. Je vous le dis souvent, on est intègre et on est obéissant vis-à-vis de Dieu parce qu'il nous a aimés et que c'est ça qui compte. Et qu'il prendra soin de nous d'une manière ou d'une autre. Alors, que le Seigneur soit béni. Amen.